cours de philosophie de vivant par le père de Dominique Philippe à Saint-Médard le 30 mars 95.
sais que le développement s'arrête assez vite. Ce qui prouve une bonne autonomie vitale. Entre parenthèses, le professeur Lejeune affirmait. Dans un être qui est en devenir. est-il assez fort pour se séparer de sa source et avoir son rythme propre? Toute la question est là. Pourquoi? C'est, je crois, le seul argument philosophique qui permet de dire là, mais là. Avant, je peux pas. Je sais pas. Alors, en tant que chrétien, je peux dire que c'est la volonté de Dieu de coopérer avec la nature humaine, avec le désir des parents, ou avec tout simplement, parce que c'est quelquefois pas le désir des parents, avec tout simplement le point de vue de la nature humaine. C'est net. Dieu crée l'âme. Je crois qu'il n'y a aucun texte de l'Écriture qui me permet de dire que l'âme est créée par Dieu dès le point de la conception. Alors, qu'on le dise pour ne pas scandaliser. Je comprends. Ça, il ne faut pas en faire une espèce de montagne. Mais au plan philosophique, soyons le plus vrai possible. Et disons qu'on ne peut pas le savoir. Mais qu'il semble bien que, voilà. Pas plus de ça. Vous me diriez, moi je crois que l'âme est créée. Je dirais très bien. Moi, je l'ai dit du reste pendant un certain temps. Parce que cet argument semblait très très fort. Ce que disait le professeur Lejeune. Et puis en réfléchissant, je me suis dit attention, attention. Et en reprenant tout ce que saint Thomas nous dit. Ça m'a beaucoup éclairé. Parce que je vois qu'au fond, la connaissance scientifique ne me permet pas de dire d'une façon absolue. Autrement, tous les savants biologistes, honnêtes, affirmeraient l'âme spirituelle. Ils seraient bien obligés. Alors vous leur diriez, dans leur science, ils ne sont pas honnêtes. Je n'oserais jamais dire ça. Dans leur science, ils peuvent être très honnêtes et dire, je n'ai pas découvert l'âme, je ne sais pas. Alors, attention, je parle de l'aspect génétique. Je n'ai pas découvert le moment où l'âme était. C'est très bien. C'est qu'un signe. Ça ne peut être que des signes. Or, l'argumentation par mode de signe ne peut être parfaite que dans un jugement de sagesse. Je dirais, ce savant biologiste sait très bien qu'il est un homme et que sa science biologique n'explique pas toute sa vie humaine. Il voudrait bien. Alors, s'il est matérialiste, il dit sa science biologique explique toute sa vie humaine. On le sait. Et certains l'expliquent comme ça, par la cause matérielle. Mais je dis, là, ils ne sont pas honnêtes. Ils sont peut-être sincères, mais ils ne sont pas vrais, parce qu'ils n'expliquent pas leur propre science. Leur propre science montre qu'il y a en eux quelque chose qui dépasse la matière. L'universel, ça dépasse la matière. L'amour spirituel à l'égard d'une personne, la réflexion qu'ils peuvent faire sur la personne humaine. Je ne peux pas expliquer la personne humaine uniquement par le point de vue de la matière, de la science biologique. C'est quelque chose qui dépasse. Mais le développement embryonnaire, ça c'est autre chose. Le développement embryonnaire est commandé par les parents, qui sont des causes propres de la génération humaine, de la procréation. Ils sont des causes propres. Ce n'est pas uniquement des instruments. Moi, ce qui met toujours le danger, c'est d'en faire uniquement des instruments, c'est-à-dire, au fond, d'avoir peur de voir que la créature est vraiment cause propre de la vie. Alors, les parents sont cause propre de la vie. Si je dis qu'ils ne sont pas cause propre de la vie, je vais contre toute la tradition chrétienne. Ils sont cause cause propre de la vie. S'ils sont cause propre de la vie, avec la création de l'âme, ils coopèrent. C'est une coopération. Une coopération où Dieu, dans sa sagesse, coopère au moment où Dieu, dans sa sagesse, a vu que c'était le moment le plus sage de coopérer. Mais Dieu coopère sans que je m'en aperçoive. C'est ça qui est le propre de l'action de Dieu. Une action humaine, je m'en aperçois parce qu'elle est visible. Dieu opère de l'intérieur. Dieu me soutient toujours dans l'être et je ne le sens pas. Il me soutient toujours dans l'être. Dieu, la création est un acte éternel du côté de Dieu. Donc actuel. Actuellement, Dieu crée mon âme. Et je ne l'aperçois pas. Je n'ai pas conscience immédiate de cela. Je réfléchis sur mes activités et je vois que mes activités impliquent quelque chose de spirituel. Et ce quelque chose de spirituel réclame une cause propre, puisque c'est moi. C'est ma pensée, cogito. C'est ma pensée, je pense, je réfléchis. Et donc distinguons bien la découverte de l'âme par l'induction et le regard philosophique sur le devenir. Et c'est toute la question du devenir. C'est pour ça que j'ai insisté beaucoup que le devenir est l'être en acte. Si le devenir est l'être en acte, il est être humain, ce devenir. Parce que je le considère, comme toujours, tout devenir n'est parfaitement intelligible que dans sa fin, son terme. Un voyage, quand je fais un parcours, j'ai pris l'exemple exprès, donnez-moi un billet pour prendre le train. Je désire voyager. Et où ? Je désire voyager. Là, c'est petit ça, il est fou. Parce que tout devenir est déterminé par une finalité. Tout devenir est déterminé par une causalité. Alors la finale, causalité finale de ce devenir, mais c'est la vie générative des parents qui sont cause propre d'un être humain. Autrement, vous ne pourriez pas dire que les parents sont cause propre. Vous diriez qu'ils sont de purs instruments. Et je crois que constamment, il y a un petit peu ça. Et l'atavisme, qui est quand même une réalité à laquelle on doit tenir compte, montre combien les parents sont cause propre du corps et de l'individu. Donc, retenez au moins qu'il ne faut pas aller trop vite dans l'affirmation de l'âme. On verra dans l'encyclique du pape sur la vie ce que dit le Saint-Père. Il est bien évident que si le Saint-Père dit que l'âme est créée dès le point de départ et qu'on doit l'affirmer philosophiquement, je dirais le Saint-Père le dit, je me tais, puis c'est tout. C'est ça la seule solution. Mais si le Saint-Père dit non, on ne peut pas philosophiquement prouver l'existence, à quel moment? Très bien. Mais disons-le, pour ne pas troubler les gens. Très bien. Beaucoup de personnes ne sont pas capables de comprendre ce qu'est une pensée philosophique. Alors c'est ça le danger, parce qu'à ce moment-là, ils font de l'apologétique. Et l'apologétique énerve les savants. Je connais des biologistes, professeur de biologie, la faculté de médecine, le docteur Marois, celui qui a fondé l'Institut de la vie. Une fois, je lui parlais, comme ça, amicalement, sur le jeûne. Alors, il m'a dit, oui, mais je l'aime beaucoup. C'est évident, je l'aime beaucoup. C'est un bon chrétien, mais c'est apologétique. Et alors, ça énerve les autres savants. Il me dit, je regrette que Rome ait pris ça comme représentant de la science biologique. Parce que ça, c'est... Il y a un regard qui n'est pas assez scientifique. Ça m'a beaucoup frappé, ça. C'est pas... Je vous ai dit, quand au docteur Lejeune, j'ai assisté une fois à une conférence, on m'avait supplié d'y assister pour lui poser des colles. Alors, j'y ai assisté parce qu'on me l'avait demandé. Je me taisais parce que j'aime pas du tout après quelqu'un fait une conférence humaine. Ben, on l'a dit ouvertement, on m'a mis dedans. Et qu'est-ce que vous dites? Alors, j'ai dit, je crains beaucoup que ce qui dit docteur Lejeune implique un regard philosophique. Alors, je pose la question. Est-ce qu'en pur savant, vous parlez? Il m'a dit non. Je parle avec un regard philosophique sur l'homme. Ah, bien bon, c'est ce qui me semblait. Votre philosophie n'est pas la philosophie réaliste de Thomas d'Aquin. Il m'a dit oui, en effet. C'est la philosophie de Leibniz. Il m'a dit oui, c'est mon philosophe. Alors, j'étais heureux qu'ils le disent. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est moi qui l'ai projeté. Or, Leibniz savait bien ce qu'il dit.
Du bûcheron. J'aime
pas, je sais pas, Teddy. Ah, j'aime pas des scènes conférentielles, je sais pas, ah, c'est... J'aime mieux, oui, je crois, mais tout... Credo, quoi, t'aimes surtout. Tout ce qui est absurde, je le crois. Oui, mais c'est pas absurde. C'est éminemment intelligible. Donc ça m'attire. Et j'arrive toujours à comprendre. Mais je comprends que ça peut troubler certains. Ça, il faut avoir une très grande compassion pour les gens qui sont troublés par une recherche. Il sait mieux rester. On a toujours dit ça. Il vaut mieux le laisser. Très bien. Le conservatisme intellectuel. On a toujours dit ça. Alors, il faut respecter ça. Les sensibilités intellectuelles. Cela, je crois que la science ne peut découvrir que la cause matérielle et les dispositions. C'est déjà énorme, c'est déjà très intéressant. La finalité, non. Et la finalité est directement en dépendance de la forme, de la nature forme, donc de l'âme forme du corps. Ça, la science ne peut pas le dire. Parce que c'est pas mesurable, c'est qualitatif. Et je comprends que c'est très difficile hein, dans le monde d'aujourd'hui. C'est très difficile à faire comprendre ça. Parce qu'on est tellement pris par un positivisme. Alors c'est très très difficile. Quand on est vraiment très habitué à la philosophie, ça devient évident. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Quand on est très pris par la science et que pratiquement c'est la seule chose qu'on a faite, on n'a pas fait de philosophie du tout. Mais c'est comme un artiste qui ne connaît que l'art. Allez lui parler de mathématiques et de la science, il dit, oh, je m'en fiche, moi c'est l'art qui m'intéresse, c'est tout. Point terminable. Je dirais, mais oui, en tant qu'artiste, je comprends. Mais ça, c'est la complexité de l'être humain, tu vois, qui peut se développer de façon très différente. induction, ça fait mal les yeux. Non, c'était un vieux Permel qui me disait ça. Vieux Permel dominicain. Diabétique. Le dernier de la grande tradition des permettres. C'était quelque chose. Et il m'en a raconté. Et une soldat, c'est les yeux. Les gens qui se regardent. Vous voyez tout de suite les connexions qui peuvent exister dans une communauté, dans les regards de frère à frère. C'est pas le nez, disait. Mais non, c'est pas le nez, c'est les yeux. Et c'est juste du reste. On ne peut presque jamais se tromper sur l'attitude de l'homme. Alors mettez la séduction. La séduction se fait par la lumière, par les yeux. Vous avez toujours dit cette chose qui est très simple à comprendre, n'est-ce pas? Ce livre d'un père Carme qui a paru il y a quelques années, qui avait beaucoup parlé à ce moment-là, qui s'appelait La Belle Acarie, de Marie d'Incarnation, dont le buste est au Carmel de Créteil. Et à ce moment-là, il était tout près du Saulchoir, et j'allais toujours passer le vendredi saint, là, au Carmel, pour confesser les sœurs avaient une dévotion spéciale de recevoir l'absolution le vendredi saint. Et moi, j'étais très content d'avoir ce vendredi saint dans le calme complet, le silence complet du Carmel. Et le prieur m'a raconté un jour cette histoire. Elle avait le buste de la première carmélite française, hein, qui dans le monde s'appelait la Belle Acarie. La beauté conduit à l'amour. Voilà. Un père Carme faisait son histoire, son raconté, sa vie. Et alors s'étendait énormément sur avant le Carmel, puisqu'après le Carmel, il n'y a plus grand chose à dire. Tandis qu'avant, il y avait beaucoup de choses à dire pour comme romancier. Alors, il voulait à tout prix avoir le buste. Et alors, ce buste, c'est un buste en tant que carmélite. Il avait demandé à un photographe, artiste, de venir. Il avait pris 50 photos. Les yeux, la bouche, le nez, le front. 50 photos. Alors, quand la mère prieure a vu ça, elle dit « Oh, qu'est-ce qu'on a fait de mon buste ?» Elle avait naïvement dit, mais oui, je vais prendre la photographie du buste. Elle croyait qu'on allait mettre son premier page pour voir la carmélite. Pas du tout. On avait fait une réduction archéologique à partir du buste et une connaissance archéologique par la lumière. La lumière peut séduire. Et vous pouvez projeter une lumière, vous faites son et lumière, c'est ça. Si vous projetez une lumière, vous mettez en pleine lumière, c'est le cas de le dire, telle ou telle partie. Et alors quand c'est séparé du tout, ça séduit. La séduction, c'est toujours mettre une partie au-delà du tout. Là, ça séduit. Tandis que dans l'harmonie du tout, c'est tout à fait différent. C'est ça du reste, c'est des caricatures. Et les caricatures séduisent. Vous pouvez faire dégringoler un homme politique par la caricature. Pas seulement un homme politique. Et ça, c'est la séduction. Alors on projette la lumière sur un aspect qui fait que... un aspect grossissant, énorme. C'est pas du tout la réalité. C'est une partie de la réalité. Oui. On est fort tenté de dire que c'est le regard humain. Ensemble, avec le sourire, exprime la présence de l'intelligence affective. Que pourriez-vous en dire? Oui, je suis d'accord que les yeux jouent un rôle. Vous savez ce que dit Platon? Les yeux jettent du feu. C'est ça la lumière. C'est pas seulement recevoir la lumière, mais les feux, les yeux sont source de lumière. Comme l'intellect agent. Hausse comme la lumière. Et les yeux, au point de vue sensible, sont comme la lumière. C'est sûr que les yeux et les Grecs ont vu pleine lumière dans leur tragédie. C'est quelque chose de très très beau à voir et de très grand. passage du visible à l'invisible. Et le visible ne sera jamais adéquat à l'invisible. Mais il exprime quelque chose, et c'est vrai que le regard est ce qu'il y a de plus expressif dans l'homme. C'est ce qu'il y a de plus expressif. Et tout le reste exprime bien moins que le regard. Il ne faut pas tomber dans l'autre aspect. Je connais quelqu'un qui, dans ses directions spirituelles, demande au dirigé ou à la dirigée, regarde.
Le dépassement de la forme n'est pas saisi par le regard.